Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, nous sommes le 17 octobre. Bienvenue à Kiosque Magazine sous le thème des loisirs et de la culture. Je m'appelle Charles Roy et je suis en compagnie de Miguel Doucet. Bonjour.
Bonjour Charles.
Aujourd'hui, de quoi nous parles-tu?
Eh bien, on a Isabeau Corriveau qui lance son album La joueuse de harpe. On a des suggestions cinéma qui s'approchent de l'Halloween. On a le festival Phénoména qui s'en vient dans le Myland. La nouvelle production cinématographique de Carole Laure. Et bien sûr, une exposition « L'Inde » au Musée national des beaux-arts du Québec.
Je vais vous parler, moi, du Festival de contes de Sherbrooke. Il sera question aussi de la Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda. Je vous parle aussi du nouveau spectacle des Sept doigts de la main, dont on entend beaucoup parler. Et aussi le Salon du livre dans l'Estrie. Tout ça à Kiosque Magazine.
Marie-Ève Lambert, dans la presse du 16 octobre, nous fait découvrir cette joueuse de harpe de Isabeau Corriveau, son nouvel album, La joueuse de harpe. Ce devait être un simple outil pédagogique. Ça s'est finalement transformé en un recueil de partitions, un tout premier pour Isabeau Corriveau, accompagné d'un CD. Et le 16 octobre avait lieu le lancement du matériel intitulé La joueuse de harpe. Je suis vraiment contente, vraiment fière du résultat, lance Isabeau, fébrile au bout du fil. Ça faisait 3 ans que la professeure travaillait sans le savoir à ce projet. Au début, j'ai commencé à composer des pièces simples et jolies. Je voulais apporter du nouveau matériel pour rendre l'apprentissage de la harpe plus agréable auprès de mes élèves. En avançant dans ce projet, j'ai réalisé que ces pièces étaient plus qu'un outil pédagogique, mais aussi de douces mélodies touchante et agréable à écouter, et on me demandait souvent si je les avais enregistrées sur disque, indique-t-elle. Pour faire un album complet, il manquait cependant 2 morceaux. J'ai décidé d'y inclure La valse du Petit Prince, une chanson que j'ai composée pour mon fils, mon Petit Prince, un soir qu'on s'est mis à danser lui et moi dans le salon, raconte-t-elle. La dernière composition, quant à elle, a été créée une semaine après les funérailles de la petite Zoé Bernard en février. Cette histoire m'a beaucoup touchée et j'ai senti le besoin d'écrire quelque chose en sa mémoire, dit Isabeau. Ainsi est née la pièce hommage à une princesse. Le tout, autoproduit, a été enregistré il y a quelques mois dans la résidence d'un ami de Saint-Pacôme de Kamouraska, dans une pièce tout en bois rond, à l'acoustique incroyable, fait savoir la harpiste. Celle-ci mentionne par ailleurs que le titre du matériel provient de la méconnaissance des gens du terme « harpiste », plusieurs ne connaissent pas le mot et m'ont simplement surnommé la joueuse de harpe, rapporte-t-elle en riant. Celle qui enseigne également depuis septembre au cégep de Sherbrooke indique que les 11 pièces du recueil s'adaptent parfaitement au piano puisque la musique y est notée de la même façon pour les 2 instruments. Suffit de faire abstraction du doigté pour harpe, mais on peut très bien adapter les morceaux à d'autres instruments si on s'y connaît, lance-t-elle. Il s'agit donc du 2e album de composition pour Isabeau, le premier pour Mieux rêver qui a vu le jour en 2011, et celui-ci donc qui est un recueil et un album, ils sont en vente présentement. Le livre de partition vient avec le CD qui est inclus, mais il est possible d'acheter simplement le CD.
On entend un extrait du concerto pour flûte et harpe de Mozart. Je vais poursuivre avec un festival à Sherbrooke qui sûrement va faire détourner des foules. Ça s'appelle « Les jours sont comptés ». C'est un festival de contes. C'est Laurent Martin dans la Tribune qui nous en parle, un article titré « Une bonne à compter ». C'est paru le 16 octobre. Le festival « Les jours sont comptés » qui s'hydrate la gorge en vue du début de son 22e marathon jeudi soir est l'un des plus vieux à Sherbrooke. Pourtant, il demeure l'un des plus méconnus, condamné à une espèce de perpétualité émergente. Ce n'est pas tant un problème. Le conte est un art qui s'enrichit d'un contact intime, qui se bonifie dans le blanc des yeux, quand le public peut voir perler la sueur et voler la salive de son locuteur. Surtout, l'événement qui en a long à dire pendant 11 jours est porté par l'enthousiasme de ses spectateurs fédèles, habitués à la fulgurance des voyages faits sur les ailes de la verve. Alors, des salles de 1500 personnes, il n'en aura que faire. Sophie Junkers, qui est la directrice artistique, un de ses dadas, c'est la surprise, le piquant. Elle en a donc saupoudré dans la recette traditionnelle des soirées de contes afin de créer des événements inattendus. Par exemple, le 25 octobre, les gens pourront aller voir André Lemain délier sa langue à l'intérieur d'une yourte rustique à Maricourt. Le conte est un art vivant, dit-elle, pour lequel le contexte est très important. Il importe de bien choisir l'heure et l'endroit, les conditions pour que l'expérience soit unique. Du reste, la programmation qui étend son bouche à oreille de Valcourt à Coaticook ratisse large avec de nombreux parleurs d'ici comme d'ailleurs. Qu'importe votre humeur du jour ou de la saison, il y a un spectacle pour vous pendant le festival, assure la directrice artistique. Ainsi, de quoi avez-vous envie? Alors voici quelques suggestions. Si vous avez envie de sourire, pourquoi pas, allez voir Jean-Marc Massy, qui ne fait pas de l'humour léger ou facile. Mais ses récits et anecdotes de vie, qui tanguent lentement vers la fiction pour devenir carrément abracadabrant, sont très rigolos. Il arrive à créer une ambiguïté déconcertante. Il n'y a pas de limite à son imaginaire. Le titre de son spectacle dit tout. « Délirium ». C'est présenté au Centre culturel Pierre Gobeil à 20h le 24 octobre. Si vous avez plutôt envie d'être touché, Jihad Darwish, l'un des favoris du festival, vient présenter pour la première fois en Amérique sa nouvelle création, inspirée par la révolution égyptienne de 2011. À l'aide de témoignages de femmes, il a bâti un récit qui met en valeur le rôle qu'elles ont joué dans ce combat pour la liberté. Sachant qu'il a été journaliste de guerre avant d'être conteur, son spectacle permet d'être bouleversant. C'est à la Maison des Arts de la Parole, jeudi soir à 20h. Son spectacle s'intitule « Le jour où l'espoir nous a prises par surprise ». Envie d'être étonné, l'univers de Didier Korowski est éclaté, glisse souvent vers l'absurde et se bâtit beaucoup avec le public. En plus, ce spectacle est un type boîte à histoire, ce qui veut dire que le conteur pigera dans son répertoire selon son humeur pour en faire une représentation unique. Le titre signifie d'ailleurs « n'importe quoi » en verlan. Alors, je le prononce « n'importe quoi » en verlan, ça donne « Porte no wack ». C'est présenté à la Maison des Arts de la Parole le 21 octobre à 20h. Et finalement, si vous avez envie de retrouver des oreilles d'enfant, pourquoi pas aller au spectacle qui s'intitule... Attendez, j'ai perdu ma page. Oui, Croquembouille. La Française Gigi Bigot s'est retirée de la scène pendant un certain temps pour réaliser une étude sur la valeur de la parole artistique. Elle a notamment travaillé auprès des enfants autistes pour évaluer leur réaction au discours. Elle reprend les éléments typiques du conte pour enfants, comme une grenouille qui parle, mais les assemble avec une grande profondeur. Croquembouille, donc, sera présenté dimanche à 10h à la Maison des Arts de la Parole.
L'Halloween approche et en fin de semaine, c'est un temps pluvieux qui est annoncé. Pourquoi ne pas sortir au cinéma? Alors, voici des suggestions, deux suggestions de Isabelle Honteberry, tirées du journal d'aujourd'hui, du journal 24 heures, donc du vendredi 17 octobre. Tout d'abord, Dracula inédit. Avons-nous besoin d'un autre film sur Dracula? La question se pose. Et dire qu'elle n'était pas motivée d'aller voir le film Dracula est un euphémisme. Et malgré tout cela, et je cite Isabelle Honteberry, les 92 minutes du long métrage sont passées sans que je m'en aperçoive. Alors comment ce qui aurait dû être un navet à peine regardable s'est-il transformé en bon divertissement? Commençons par louer le choix de Luke Evans pour incarner Vlad, prince de Valaki, futur Dracula. Physiquement, il est parfait. Sarah Gadon se conforme au scénario qui fait de Mirena, l'épouse de Dracula, une femme sensible, belle, forte et follement amoureuse de son mari. Et Dominic Cooper est un sultan turc arrogant à souhait. Poursuivons avec la réalisation de Gary Shore, un publicitaire ayant travaillé pour Adidas, pour ne citer que cette marque, l'homme parfait pour mettre en scène cette histoire, tout comme Joseph Kosinski avait été le choix qui s'imposait pour l'oubli. Quant à la fin en forme de clin d'œil, elle est suffisamment intéressante pour boucler la boucle avec le Dracula de Coppola, tout en ouvrant la porte à une suite si l'occasion s'en présentait. Alors, moulinette commerciale, c'est drôle parce qu'elle parlait justement du film L'Oubli précédemment. Donc, ce Dracula inédit se situe dans la même veine, celle des classiques revisités, adaptés et transformés pour un public de plus en plus jeune. Certes, ce passage à la moulinette commerciale a tendance à niveler par le bas, mais cela donne quand même de bons longs métrages qui méritent d'être vus sur grand écran. Donc, ce Dracula inédit. Et pour les plus jeunes ou pour les adultes qui ont un cœur d'enfant, la légende de Manolo, elle cite une pure merveille. Produit par Guillermo del Toro, ce film d'animation est un régal à tous les niveaux. Depuis l'excellent film Lego sorti en février dernier, les dessins animés de qualité ont été rares, pour ne pas dire inexistants. Avec la légende de Manolo, scénarisée et réalisée par George R. Guterres et produit par Guillermo del Toro, qui nous avait offert Hellboy, Labyrinthe de Pan, les rives du Pacifique, ce manque est désormais comblé. Parce que l'intrigue principale s'inspire fortement de la légende latino-américaine du jour des morts, sujet a priori un peu sombre pour les enfants, mais le tout est présenté comme un conte raconté à des jeunes par la guide d'un musée, doublé par Christina Applegate en version originale. Donc, ce qui frappe d'entrée de jeu dans la légende de Manolo, le titre original de Book of Life, le livre de la vie, qui aurait pu garder son titre, et l'entraînante trame sonore dans laquelle on reconnaît pêle-mêle Creep de Radiohead, I Will Wait de Mumford & Son ou même Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart, pour ne citer que ces pièces. Agréablement remixées à la sauce latino. Alors, un graphisme puissant, les visuels sont éblouissants, l'iconographie mortuaire latino-américaine était d'une gaieté peu commune, pensez à ces têtes de mort peintes de toutes les couleurs. Donc, le design des personnages est magnifiquement original, chacun étant pensé comme une poupée de bois, d'où le fait de la légende est racontée par la guide d'un musée, ce qui rend le tout encore plus attrayant et compréhensible pour les plus petits. Le message, tout comme dans le film Lego, est multigénérationnel, intelligent, émouvant, magique et d'une grande humanité. Et pour vous mettre dedans, voici Do You Think I'm Sexy.
looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother. They got your cab to his high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Oh, baby, touch me, baby. His heart's beating like a drum, 'cause at last he's got his girl home. Relax, baby, now we're all alone.
Je pense qu'on vient de réveiller les morts.
Oui.
Alors, c'était Do You Think I'm Sexy, mais la version de Ima.
Oui, ah,
bon. Ima.
Je vais enchaîner avec un tout autre univers. Dans le cadre de la Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda, Jérôme Delago, dans Le Devoir, nous parle de la pièce La noirceur de Marie Brassard. Et voilà, c'est un portrait de cette pièce-là qui a déjà été jouée plus tôt à Montréal et qui est repris à Rouyn-Noranda. Alors voici, c'était paru le 16, est-ce que c'est bien ça? Le 15 octobre. À l'écart des festivals hyper médiatisés ancrés dans sa lointaine Abitibi, la Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda vibre au rassemblement d'horizons. La 7e édition, qui commence mercredi qui vient, ne sera pas en reste avec des artistes de Vancouver, Brooklyn ou de Bogota. En levée de rideau, tout un emblème, la noirceur de, par et avec Marie Brassard. Ce spectacle créé en 2003 à l'usine C dans le cadre du Festival des Amériques met en lumière le combat de bien des gens de la culture pris à la défense de leur nid que ziotent les investisseurs en manque de profit. Certains s'en tirent, comme L'Écart, le centre d'artistes de Rouyn derrière la Biennale, devenu propriétaire en 2010. D'autres perdent, comme les locataires du 10 Ontario, là où se situe la noirceur. La pièce parle de la très, très petite place que la société fait à la création, au cas où aussi, résume son auteur. C'est rassurant de tout comprendre, d'avoir le sentiment de tout contrôler. Ça me fait peur comme artiste. La création ne doit pas nécessairement se faire dans la souffrance, mais je pense qu'il faut passer par la noirceur. Jusqu'à aujourd'hui, Marie Brassard, grande voyageuse, n'était jamais montée sur une scène d'Abitibi. Ce sera chose faite, ou presque, puisqu'elle se produira pas dans un théâtre, mais dans un espace-galerie de L'Écart. À son avis, la noirceur est la plus politique de ses pièces, et la première où elle portait le gros risque du réalisme, avec des événements propres à sa vie. Marie Brassard a grandi comme créatrice au 10 Ontario. Cette pépinière d'artistes à l'angle des rues Ontario et du boulevard Saint-Laurent, devenue le loft des arts pour privilégiés. Ce spectacle doit être à présent dans des lieux comme ceux qu'il décrit, donc en marge des lieux habituels, commente celle qui en a contre les normes. Le quartier des spectacles donne-t-elle un exemple un peu de la liberté créatrice de l'époque du 10 Ontario? Je vois en ville des bâtiments abandonnés et je voudrais bien qu'on en fasse des merveilles, sans investir des millions de dollars. Ça me brise le cœur, dit Marie Brassard, de voir des espaces vides, de savoir qu'on préfère le vide au risque, au chaos, à l'audace. La Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda, qui comprend des actions dans l'espace public et dans d'autres salles, se déroule jusqu'au samedi 18 octobre.
Toujours dans le cadre de festival à Montréal, il y a le festival Phénoména. Alors, c'est dans le journal 24 heures d'aujourd'hui, du vendredi 17 octobre, un texte de Marie-Hélène Chartrand. Alors, l'expérimentation et l'audace artistique sont au cœur du festival Phénoména, présenté du 17 au 24 octobre dans plusieurs salles du quartier Mile End. Alors, en tout, c'est plus de 100 artistes qui prendront part à une quarantaine de spectacles interdisciplinaires et hors normes. On présente des artistes inclassables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer en une phrase s'ils font de la danse. Ils ne font pas que ça, ils transgressent leur discipline ou la théâtralisent, explique l'artiste interdisciplinaire Dee Kim, directrice de l'événement. Le festival Phénoména est le résultat de l'évolution du collectif producteur Les Filles électriques, fondé par cette dernière. D'abord vouée à la promotion du texte performé, l'organisation s'est par la suite orientée vers la création interdisciplinaire et avant-gardiste. Dû à cette transformation, le festival Voix d'Amérique s'est éteint et a cédé sa place au festival Phénoména, créé en 2012. Dee Kim avoue être énormément inspiré par Georges Méliès, considéré comme le père du cinéma avant-gardiste. Celui-ci inventa les premiers trucages du 7e art, en plus d'être comédien, costumier et metteur en scène. J'aime ce côté touche-à-tout, j'aime désacraliser les rôles, changer leur hiérarchie, explique-t-elle. Le festival Phénoména invite autant les artistes à se mettre en danger et à faire des essais que les spectateurs. Ces derniers ne sauront souvent pas à quoi s'attendre du spectacle auquel ils assisteront. D'ailleurs, cette prise de risque est encouragée par un droit d'entrée modeste aux différents événements, entre gratuit et jusqu'à 23 $. On peut donner accès à quelque chose qui est encore en création avec l'énergie et la fébrilité des débuts, dit Dee Kim. Le festival vise à donner une tribune aux créateurs anticonformistes et à leurs projets. La beauté de ce festival, c'est qu'il montre des artistes de la contre-culture très actifs, fait remarquer un des participants du festival, Stéphane Crête. L'événement prend son envol ce vendredi donc, avec la présentation de la 7e édition du désormais célèbre cabaret Dada, animé par Stéphane Crête. La soirée se déroulera sous le thème rétro-futuriste. C'est le futur comme on l'imaginait dans les années 50-60. C'est assez visuel ce qu'on peut faire, et explique Dee Kim. Cette image du futur à laquelle on fait référence est celle qui animait les humains des années 2000, se déplacer en soucoupe volante, se nourrir de pilules et aller en vacances sur la Lune. À partir de cette contrainte, une dizaine d'artistes ont une carte blanche pour créer un numéro. Alors, Dadaïsme est l'ancêtre du surréalisme et qui veut quelque chose de plus performatif, un peu plus éclaté. Et donc, si vous voulez participer et voir le festival Phénoména du 17 au 24 octobre et festivalphénoména.com pour plus d'informations.
On est de retour après la pause. On fait une petite pause de 2 minutes. Et en deuxième partie d'émission, il sera question des 7 doigts de la main du festival du livre, Salon du livre de l'Estrie, et aussi un festival Inde au Musée national des beaux-arts de Québec.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors Miguel, tu nous proposes une sortie de cinéma encore une fois.
En fait, c'est dans le cadre du festival du FNC. Mm-hmm. Donc, le film sort en salle le 24 octobre. C'est le nouvel opus de Carole Laure, Love Project. La nécessité de s'exprimer. Donc, tiré du journal Métro d'aujourd'hui, du vendredi 17 octobre. Dans un univers d'errance, de révolte et d'onirisme, se dresse Love Project, la nouvelle création cinématographique de Carole Laure. Je pense que c'est mon film le plus facile d'accès, avoue la cinéaste en entrevue, en parlant de sa quatrième réalisation. C'est celui où il y a le plus de personnages, le plus d'émotions. Exit donc les histoires aux héroïnes uniques, comme les fils de Marie, Sikidou et la capture. Et bienvenue à la multiplication des tranches de vie et des destins. Love Project prend la forme du film choral en braquant son regard sur une troupe de jeunes gens qui répètent le chant et la danse et qui vivent de multiples joies et déceptions. C'est un scénario que j'ai beaucoup travaillé et je n'avais pas envie de faire du cinéma explicatif, ajoute l'ancienne égérie de Gilles Carle. La réalisatrice donne plutôt une place prépondérante aux chorégraphies et aux mélodies qui sont deux des principaux moyens de communication de ces personnages. Une façon d'ailleurs de rendre hommage aux artistes et à la création, à ces hommes et à ces femmes dans la vingtaine et la jeune trentaine qui aiment, souffrent, aspirent au bonheur et embrassent la solitude à la vitesse grand V, un portrait de génération qui est peu représenté dans le cinéma québécois. Je pense qu'au Québec, on est habitué d'avoir des films sur la recherche d'identité, sur le Québécois qui se demande ce qu'il fait ici, s'avance, Natacha Filiatreault qui crève l'écran dans son premier rôle au cinéma sous les traits d'une mère qui tire le diable par la queue. Mais c'est rafraîchissant de voir un film qui parle plus de l'humain dans toute sa beauté, dans ses failles, dans ses passions, dans tout. Alors, c'est le nouveau film de Carole Laure, qui est présenté ce soir à 19h dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. C'est au Cinéma du Parc. Il est représenté aussi dimanche à 1h15, donc 13h15, et il sort en salle le 24 octobre. And I can hear a heartbeat for a thousand miles. The heavens open up every time she smiles. When I'm with her, oh, that's where I belong. And I'm running to her like a river rolling strong. Yeah, give me love, 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 will now. Crazy love, she give me love, 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 will now. Crazy love. Sense of humor when I'm feeling down. Know I'm coming to her when the sun goes round. Take away my troubles, we're gonna take away my grief. Take away my heartaches on a night like this. Yeah, she gave me love, 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 will now. Crazy love, she gave me love, love. Crazy love. Yeah, I need her in the morning. Yeah, I need her late at night. Yeah, I wanna wrap my loving arms around her well now. Kiss and hug and hold her tight. Sunshine, yeah, gonna brighten up my day. Makes me happy, oh, makes me whole. Makes me righteous now, right down to my soul. Yeah, she gave me love, 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 will now.
crazy love, she give me love, 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 where we are now. Crazy love, she give me love, 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 where we are now. Crazy love, she give me love, 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 where we are now. Oh, oh, crazy love.
On vient d'entendre Crazy Love de Harry Manx. Dans le prochain article que je vais vous lire, il y a une image qui chapeaute le tout. C'est, pour vous décrire ça, c'est 7 personnes avec des assiettes qu'on imagine qui sont en train de bouger. C'est vraiment une superbe image. C'est les 7 doigts de la main qui seront à la Tohu à partir du 28 octobre. Et François Lévesque, dans Le Devoir, nous en parle, est allé voir la première médiatique. C'est paru le 15 octobre dernier. Les 7 doigts de la main à la casserole. S'il est au Québec un lieu chargé sur le plan symbolique, c'est bien la cuisine. De génération en génération, on s'est réunis, on échange. Transmission de savoir, transmission de mémoire, comme autant de recettes. Une matrice à souvenirs, la cuisine, avec ses odeurs et ses fumets déclencheurs de réminiscences. Parlez-en à Proust. Il y a tout cela dans le spectacle Cuisine et confession, la toute nouvelle production des 7 doigts de la main, à l'affiche à la Tohu dès le 28 octobre. Ça faisait très longtemps qu'on voulait aborder cette thématique. À vous tout de go, Sébastien Soldevilla, qui consigne création et mise en scène avec sa conjointe complice, Shana Carole. Personnellement, je trouve que la cuisine et le cirque ont beaucoup en commun, comme ce mélange de technicité nécessaire et d'improvisation inhérente. Il y a aussi la dimension de partage. Tant la cuisine que le cirque sont des arts qu'on pratique au bénéfice d'autrui. Et même si on cuisine uniquement pour soi, on a appris la recette de quelqu'un. Amuse-gueule. Dévoilé en primeur aux médias mardi, 3 numéros ont l'heure, oui, de mettre ceux-ci en appétit. Proche de la danse contemporaine, le premier repose sur l'énergie du groupe, soit 10 artistes qui s'ébattent tandis que s'enchaînent au micro les confidences des uns et des autres liées à la table, à la bouffe. La cuisine contient une mémoire collective qui se déploie en mémoire individuelle. On s'amuse avec ces deux notions. Les témoignages qu'ils livrent, ce sont les leurs. Ils sont authentiques. On cherchait l'authenticité comme un bon plat préparé à partir d'aliments frais. Par exemple, Mathias, qui relate l'événement de son père en Argentine en plein repas entre amis, il ne l'a jamais revu. D'ailleurs, malgré la gravité de certaines histoires, il importait de maintenir un équilibre, de maintenir un humour, une légèreté. On a eu la chance parce que les témoignages livrés ont d'emblée facilité cela. Le numéro second, une magnifique performance de ruban aérien exécutée par Anna Kitchenko en état d'apesanteur autant que de grâce, s'est avéré mémorable. Cuisine fusion. À noter que l'on se contentera pas d'évoquer la popote dans Cuisine et confession, on la fera. Réalisé non pas en coulisses, mais sur scène grâce à un ingénieux panneau décor plein d'armoires et de tablettes exhibant aliments et ingrédients, avec îlots amovibles, entre autres fours encastrés, quelques plats seront de fait servis au public. C'est dire que l'on va ici au-delà du concept de la théorie et qu'on fusionnera bel et bien art du cirque et art culinaire. Ce spectacle est la 13e production des Doigts de la main, je le répète, s'est présenté dès le 28 octobre à la Tohu jusqu'au 16 novembre. We'll be right back.
Là, tu me parlais de cirque et de cuisine, Charles, mais moi, je vous emmène complètement ailleurs. Je vous emmène faire un voyage en Inde. Et oui, au Musée national des beaux-arts du Québec, c'est l'art indien sous la loupe. Et c'est pas peu dire. Le Musée national des beaux-arts de Québec a ouvert ses portes ce mois-ci sur une contrée fascinante et inusitée, celle de l'art miniature de l'Inde. Et c'est sous la loupe, et on fournit à l'entrée de l'exposition, que s'apprécie le mieux toute la finesse de l'ensemble. Alors, c'est tiré du texte d'Isabelle Houde du Soleil du mercredi 8 octobre. Donc, ce sont des miniatures monumentales. Ces œuvres sont peut-être petites en format, mais elles sont énormes en contenu, a résumé Roxane Valaquez, directrice générale du San Diego Museum of Art, le SDMA. L'institution a consenti à prêter une partie de la collection de miniatures indiennes léguée par Edward Binet III. La nature même des peintures réalisées sur papier et donc très sensibles à la lumière fait de leur sortie une rareté. Les œuvres prêtées par la SDMA seront exposées à Québec jusqu'au 18 janvier, mais retourneront ensuite dans la noirceur complète pendant plusieurs années. C'est vraiment exceptionnel. Le terme est galvaudé, mais cette fois-ci, on est devant des chefs-d'œuvre qui sont comme des portes d'entrée sur une culture fascinante. On ne connaît tellement rien à l'Inde, et pourtant, c'est le deuxième pays au monde en termes de population. C'est une civilisation plurimillénaire avec des religions extraordinaires, a exprimé Anne Échappas, directrice des expositions et de la médiation au musée. Deux salles du pavillon général Gérard Morissette ont été repeintes d'un orangé riche et profond. L'histoire de la peinture indienne est retracée à travers quatre thèmes chronologiques, comme autant d'étapes dans l'évolution de cet art minutieux. Le scénographe Jean Hazel a dessiné un espace où les œuvres sont déposées en angle sur de longs pupitres blancs afin d'être vues comme elles l'étaient originellement, soit à l'intérieur de manuscrits. Avec le temps, pour des raisons mercantiles principalement, les peintures ont été séparées des livres dont elles faisaient partie, a expliqué Anne Échappas. Si on parle d'Inde, ce n'est d'ailleurs pas dans ses frontières modernes, mais plutôt dans sa définition historique plus large qui englobe entre autres le Bangladesh et le Pakistan. Au cœur des chemins de commerce entre l'Europe et l'Asie, la région a subi de nombreuses influences extérieures. On a voulu raconter comme la peinture indienne s'est forgée et à travers toutes ses influences, a expliqué Anne Échappas. La naissance de la dynastie moghole, qui régnera sur le nord de l'Inde pendant trois siècles, marquera l'apogée de la peinture miniature qui devient alors plus narrative que seulement religieuse. Les empereurs successifs favoriseront le développement des arts. Les ateliers de peinture sont organisés par une logique de travail et à la chaîne. Les pinceaux utilisés ne sont parfois constitués que d'un seul poil. Étrangement, la peinture qui paraît faite à la gouache est plutôt réalisée à l'aquarelle, en multiples couches, ce qui rend opaque, explique Anne Échappas. Dorure, encadrement finement ciselé, la peinture miniature rappelle les enluminures médiévales, mais avec une imagerie qui paraît exotique à nos yeux d'occidentaux. Alors, c'est à Québec, au Musée national des beaux-arts du Québec, c'est dans le parc du Champ de bataille. Thank you. Anouka Saka et Norah Jones, Trace of You.
En Estrie, le Salon du livre vient d'ouvrir. C'est Catherine Lalonde qui nous en parle dans Le Devoir. C'est paru le 16 octobre. Vient d'ouvrir, excusez-moi, je crois pas que c'est encore ouvert. Oui, excusez, ça a commencé hier, c'est jusqu'à dimanche. Nuit blanche pour les jeunes, thé et biscuits pour les aînés, le Salon du livre de l'Estrie multiplie ses activités pour rejoindre le plus vaste spectre possible de lecteurs. Cette année, 300 éditeurs sont attendus et un peu plus de 310 auteurs participeront aux activités, animations et entrevues déployées sur 4 jours. Le Devoir a attrapé la directrice générale, Ghislaine Thibault, en plein coup de feu, visiblement la broue dans le toupette, à moins de 24 heures d'ouverture du salon. Cette année, a-t-elle expliqué en entrevue, on a deux choses spéciales, une nuit au salon pour les jeunes et une nouvelle formule pour le vendredi après-midi consacré aux aînés. Plus question d'imitation d'émissions de télé de variété, ni d'enfilade d'entrevues d'auteurs, mais davantage de diversité entre les contes amérindiens du parrain, donneur et auteur Michel Noël, qui a écrit « À la recherche du bout du monde » chez Urtubise. Il y aura aussi des tables rondes, des conférences et entrevues avec Ginette Bureau, qui a écrit « À cause de papa » chez Cram, Louise Portal, qui a écrit « La promoteuse du Cap » chez Urtubise, Pauline Gill, qui a écrit « Gabi Bernier » chez Québec Amérique, et Pascal Wimley, qui a écrit « Ses mains sont faites pour aimer » chez Libre Expression. Et il y aura aussi une personnification d'Émile Néligan. « On a le don de faire ressusciter les morts », rigole Madame Thibault au téléphone. On va voir aussi Félix Leclerc qui va faire une apparition durant le salon. Nuit
intriguant.
Blanche. Intriguant, oui. Peut-être le fantôme durant la nuit qui va rôder. Nuit blanche. Les auteurs qui seront à l'honneur cette année sont Hervé Gagnon, qui a écrit Jack chez Libre Expression, Claire Vigneault, La Grande Visite chez Trois Pistoles, Noël et Gil. Les visiteurs de 8 à 12 ans auront la possibilité de passer la nuit de samedi à dimanche sur les lieux pour la soirée Bidding Bedang, animée par le bédéiste Tristian Demers, qui a écrit Gargouille 13. Visite guidée, animation, collation, jeux, dodo, ben espère-t-on, et petit déjeuner littéraire à faire en pyjama ou en moutoufli dans son sac de couchage. Le plan du salon a été repensé, espace réaménagé, ce qui permet d'ouvrir un espace jeunesse supplémentaire. Ce salon du livre à l'Estrie est donc au centre des foires de Sherbrooke du 16 au 19 octobre.
Ah, je trouve que cette musique m'amène à mon prochain sujet du journal Métro du jeudi 16 octobre, texte de Natalia Wisurka, Germaine, la lune. Je trouve que c'était comme départ vers la lune. Alors, c'est au théâtre, bien oui, les Belles-Sœurs de Musical, ce sont nos amis anglophones qui reprennent le fameux spectacle de René Richard Cyr. Alors, par un beau matin, Germaine Lauzon trouve un million de stamps sur son welcome mat. Et s'écrit « I won! I won! » et musique. Il me semble qu'on pourrait avoir la petite musique. Alors, Parlant de Carpet Welcome, c'est en mars 2010 déjà que... Oui, c'est ça! Well, I won! Alors, c'est en mars 2010 déjà que l'idée de créer les Belles Sœurs de Musical a été mise sur le tapis. Alors, comme le racontait hier, donc au moment de la présentation, René-Richard Cyr, le producteur, Alan Sandler, avait assisté en mars 2010 donc à la première au théâtre d'aujourd'hui et de cette comédie musicale à succès tirée de la pièce de culte de Michel Tremblay. Dans les jours qui ont suivi, M. Sandler nous a dit qu'une version anglophone de notre production serait très bienvenue et qu'il voulait s'y mettre. S'est souvenu René-Richard Cyr. Avant d'ajouter sans détour, je serais menteur si je vous disais que ça a été un processus facile, ça a été un processus long. J'oserais même dire quelquefois laborieux, mais finalement, on se retrouve tous aujourd'hui dans la même salle, c'est formidable. C'est dans l'antre du Centre Seagull que le metteur en scène québécois alias La Machine, comme l'ont présenté ses confrères anglophones, a dévoilé aux médias deux chansons qui feront partie des Belles Sœurs de Musical à l'affiche donc dès dimanche. « I'm not very bilingual », vous allez voir, a-t-il blagué avant de lancer le cri de ralliement « OK, girls, ready? Oui! » ont crié les « girls » depuis les coulisses. On a d'abord eu droit à l'ouverture dans cette toute première chanson, Germaine Nozon apprenant qu'elle a gagné une montagne de timbres primes, convie ses copines à un party de collage. Sur la scène du Centre Seagull, on a retrouvé la scénographie originale de Jean Barre, cet univers d'armoire d'un blanc terni avec la planche arpassée à carreaux appuyée juste là contre le mur, tout près du frigo. Et puis l'éclairage rouge au fond et bleu devant de Martin Labrec. Une dualité de couleurs qui, dans ce contexte, semblait prendre une signification politique nouvelle. Notons toutefois que la musique signée Daniel Bélanger et les paroles de René-Richard Cyr ont été adaptées par Neil Batram, tandis que le livret l'a été par Brian Hill. On s'est rendu compte rapidement qu'une simple traduction ne suffisait pas, qu'il fallait faire une adaptation du spectacle de façon à retrouver une sensibilité francophone qui n'est pas nécessairement la même que la sensibilité anglophone, a précisé Cyr. Reste que les garde-robes vintage composées des tenues fleuries et de collants beige de la costumière Meredith Caron, elles sont toutes présentes, c'est donc vêtue de son peignoir jaune et vert dans lequel était drapée Marie-Thérèse Fortin dans la version originale, qu'Astrid Van Wieren est apparue, habitant corps et âme, et ses voix, cette Germaine ravie de son grand prix I won. Après la présentation, l'actrice torontoise aussi s'est dit ravie de ce rôle, de l'expérience. Michel Tremblay, c'est un héros, autant pour les anglophones que pour les francophones. Ses pièces sont si belles et comportent tant de personnages féminins. Et en plus, ajoute-t-on, Germaine Lauzon, c'est un rôle de femme historique. Absolument, acquiesce Astrid. Mais vous savez, quand on est actrice, il faut presque oublier ce genre d'informations. Il faut approcher chaque rôle comme si on était la première comédienne à l'endosser. De tous les temps, c'est comme si tu allais sur la Lune. Le voyage ne serait pas moins excitant parce que tu ne serais pas la première à y aller, mais je veux dire, tu serais quand même sur la Lune, non? Eh bien, ici, c'est la même chose. Germaine, pour moi, c'est la Lune. Alors, Belles Sœurs de Musical commence ce dimanche au Centre Seagull, donc c'est du 19 octobre au 9 novembre.
À Montréal, samedi et dimanche, au cégep André Laurendeau, on accueillera le Salon des insectes de Montréal. Pour les amateurs comme les simples curieux, c'est l'occasion de voir et peut-être d'acheter quelques 150 000 spécimens d'insectes naturalisés ou vivants provenant du monde entier. Aussi, dégustation d'insectes, eh oui, volière à papillons, atelier de fabrication de chandelles en cire d'abeille et montage d'insectes et animation éducative pour les enfants. C'est 5 $ par personne, 3 $ pour les enfants de 13 ans et moins. Au salon insectesmontréal.com, vous trouverez tous les détails, c'est samedi et dimanche.
Lorena McKennitt, cette chanteuse canadienne, est ce soir au Théâtre Maisonneuve à 20h. Il y a aussi les ballets Paquita, alors les ballets de l'Opéra de Paris, c'est présenté jusqu'à ce dimanche. Et pour avoir vu le spectacle, ça vaut le déplacement.
En Outaouais, il y aura des sentiers hantés ce samedi soir de 19h à 23h. Les sentiers de randonnée du parc des Chutes Coulognes grouilleront de créatures macabres pour la présentation de la marche hantée. Un parcours pédestre d'une durée de 40 minutes a été décoré aux couleurs de l'Halloween. Plusieurs figurants seront sur place pour effrayer les marcheurs ou raconter des histoires à glacer le sang. Un feu de joie, des musiciens et un bar sous la tente permettront aux participants de prolonger la soirée. L'activité n'est pas conseillée aux moins de 10 ans. Pour les détails, chute au pluriel coulogne.qc.ca.
Alors, le Festival du Nouveau Cinéma se poursuit jusque ce samedi. Et il y a le film Pasolini de Abel Ferreira. Alors, si vous voulez voir ce film, c'est à voir ce dimanche, ben, à 20h à Concordia. Alors, ça termine bientôt ce festival-là, mais le film va sûrement sortir après sur nos écrans.
Et j'ai le temps en terminant dimanche, jusqu'à dimanche, il y aura le festival Québec en toutes lettres à Québec qui s'installe dans la capitale pour 10 jours avec, entre autres, une soirée carte blanche à Kim Thuy, 4 projections cinéma en marge de la nouvelle expo Félix et Duras. Je remercie Kamal Salifou à la régie. Merci Miguel à l'animation. Je m'appelle
Merci.
Charles Roy. Suivra Clotilde Seille ou une autre émission. Je vous remercie, à bientôt et à vendredi prochain.